enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La parole, parce qu'elle est bonne, elle est parfaite. Elle nous instruit, Seigneur. Merci. Merci parce que cette parole est extraordinaire. Merci pour la croix. Merci de nous aider à mieux comprendre la croix. Oh, que toute la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Parce qu'il y a 2000 ans, tu as fait cette œuvre extraordinaire, merveilleuse, fabuleuse, quand tu t'es donné, Seigneur, à la croix. Alléluia. On va continuer sur la croix, frères et sœurs. Et je vous rappelle que nous allons d'étape en étape. Ça fait plusieurs séances que je vous donne sur la croix. Et nous allons continuer à étudier ce qu'est la croix. Parce que c'est l'événement le plus important qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Et devant cet événement le plus important de l'histoire de l'humanité, eh bien, en fait, nous devons vraiment voir ce qui s'est passé. Non pas de façon extérieure, mais de façon intérieure. Je vous rappelle que la croix n'est pas l'œuvre d'un homme, mais la croix est l'œuvre de Dieu. L'heure de la croix n'a pas sonné parce qu'un homme a dit « Ah, je vais réussir à trahir Jésus !» Mais rappelez-vous, l'heure de la croix a sonné parce que Dieu l'avait prévu ainsi. Au temps particulier, à l'heure particulière, alors Dieu a su que l'heure de la croix avait sonné. Il l'a voulu. Et c'est ce qui s'est produit. Je vous rappelle que Jésus était intouchable. Parce que Jésus était sans péché. Et comme il était sans péché, la mort, cette loi spirituelle, nous montre une chose, que la mort n'a pas de pouvoir là où il n'y a pas de péché. Là où il y a du péché, la mort a un pouvoir. Là où il n'y a pas de péché, la mort n'a pas de pouvoir. Et Jésus était sans péché. Celui qui n'a pas connu le péché, nous dit la parole. Donc Jésus n'a pas connu le péché, nous le savons. Comme Jésus n'a pas connu le péché, alors la mort n'avait pas de droit sur lui. Mais il y a eu un moment, et nous le savons, nous l'avons étudié dans la dernière séance, Jésus a dit, personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même, et j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Je vous rappelle que c'est une parole de Jean chapitre 10, et on a vu que ce mot pouvoir, littéralement, c'est autorité légale. Jésus avait l'autorité légale de donner sa vie ou de ne pas la donner et de reprendre sa vie. Donc c'est très clair, l'heure de la croix n'est pas une heure humaine, mais c'est une heure divine. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine. Nous avons remarqué la dernière fois que Dieu avait un problème avec l'homme, le péché. Le péché était le problème de l'homme. Pendant 4000 ans, des êtres humains, même qui croyaient en Dieu, qui voulaient marcher avec Dieu, ne pouvaient pas aller au ciel alors qu'ils mouraient, ne pouvaient pas profiter d'une relation avec Dieu comme nous pouvons en profiter aujourd'hui. Pendant 4000 ans, le cœur de Dieu saignait. Vraiment avait du mal. Dieu souffrait de voir cette humanité dont certains voulaient marcher avec lui. D'autres n'ont pas voulu marcher avec lui. Donc ils allaient en enfer. Et ils ont été en enfer. Mais pour ceux qui voulaient marcher avec lui, des gens comme Job, des gens comme David, des gens comme Abraham, des gens comme Noé. Personne d'entre eux n'a été au ciel. Non, il n'est pas dit que Noé et Élie ont été au ciel dans le sens du troisième ciel. Non, parce que personne ne pouvait aller au ciel. Personne n'avait un accès auprès du Père comme vous et moi. Personne. Seulement, depuis que Christ est venu, alors l'homme a pu être réconcilié avec Dieu. Nous avons vu la dernière fois cette réconciliation. Commencer à voir cette réconciliation. Nous avons lu le passage de 2 Corinthiens 5 et nous avons commencé à voir Romains 6. Romains 5. Et en fait, on s'est aperçu au verset 10, il est dit Romains 5, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
5-10, Romains.
Nous étions ennemis. Dieu nous a réconciliés. Réconciliés deux parties. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois celui qui nous a réconciliés, c'est le même qui s'est donné en sacrifice. Ça, c'est étonnant. Vous savez, quand deux parties doivent se réconcilier normalement, nous l'avons vu dans les pays où nous avons traversé la guerre, il faut mettre toutes les parties sur une table et il faut un médiateur. Et le rôle du médiateur, c'est de mettre tout le monde d'accord. Et chacun doit concéder du terrain. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu s'est abaissé à devenir un homme. Après la condition d'un homme, il a tout réalisé pour que nous puissions être en harmonie à nouveau avec lui. Le problème du péché créait ce qu'on appelle de l'injustice, c'est-à-dire le contraire de la justice. Le péché créait des problèmes terribles. Un homme comme Élisée, un homme comme Élie, un homme comme Abraham, ils essayaient de tout faire pour pouvoir avoir accès dans la présence de Dieu. Et ils avaient seulement des petites portes qui s'ouvraient de temps en temps. Et entre-temps, ils ont eu des combats terribles. Ils étaient encore des fils et des filles du diable. Pour tous ceux qui ont voulu s'approcher. Pendant 4000 ans, Dieu devait résoudre ce problème. C'est pour ça qu'il va dire au verset 1 du chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu devait nous réconcilier. Pour nous réconcilier, quelqu'un devait payer. Nous étions ennemis. Nous sommes devenus amis. Que son nom soit béni pour l'éternité. Nous étions injustes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ce n'est pas l'aspect d'être injuste, de faire des choses injustes. La justice, c'est pouvoir se présenter devant Dieu sans avoir à baisser la tête, entre guillemets, sans avoir honte, sans se sentir condamné. La justice, c'est que tu peux te présenter aujourd'hui devant Dieu avec un cœur lavé, un cœur né de nouveau, un cœur pur, parce que Jésus a pardonné ton péché. T'as purifié entièrement. Donc ta justice, c'est pouvoir venir dans sa présence et profiter de sa présence. Comme des enfants profitent de la présence du Père, d'un Père. Donc cette justice, c'est pouvoir se présenter devant lui sans condamnation et sans se sentir inférieur. Sans condamnation et sans se sentir inférieur. C'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas simplement effacé nos péchés. Si Dieu avait fait effacer nos péchés seulement, et que la nature pécheresse était encore en nous, alors on aurait recommencé et recommencé. Et ça aurait été un cercle vicieux. C'est pour ça que Dieu d'abord a dû effacer nos péchés et nous mettre dans une position que le diable ne peut pas contester. Satan ne peut pas contester cette position. Il essaiera de te mentir. Mais si tu es né de nouveau, sache que tu as un accès auprès de lui. Regardons encore deux textes. Colossiens 1, versets 20 jusqu'à 22. Très beau passage qui nous parle encore de cette réconciliation. Dieu nous a réconciliés, frères et sœurs. Nous sommes parfaitement réconciliés. Malheur à celui qui n'est pas réconcilié, je vous le dis. Vraiment. Verset 19. Car il a plu à Colossiens 1, 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche.
Kuri 19 kuko Imana yahimba no kunengesera kwayo kose kuba muri we kandi yahimba no kuba kumuhakuza byose nayo ivyo ari byo mu isi ari byo mu ijuru izanijwe impore amaraso yo kumusaraba wiwe namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi none yabuzuje nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira
Alors, je vous fais cette parenthèse pourquoi? Parce que vous en faites pas, on va reprendre l'événement de la croix. Mais d'abord, il fallait que je vous montre un petit peu certaines choses. C'est un problème de l'homme. L'homme était ennemi de Dieu. L'homme était injuste devant Dieu. L'homme était ennemi de Dieu. L'homme était injuste, n'avait pas accès à la présence de Dieu. L'homme qui mourait, quand il mourait, la seule possibilité qu'il avait, s'il croyait en Dieu, s'il avait essayé de marcher avec Dieu de tout son cœur, c'était de descendre dans un endroit, nous étudierons ça, qui s'appelait le Saint d'Abraham, mais pas le ciel. Aucun des gens de l'Ancien Testament n'allait au ciel. Je vous montrerai que plus tard, lorsque Jésus va ressusciter, il va se produire quelque chose, de particulier. Mais ça, on le réserve un petit peu quand on va continuer étudier les événements de la croix. On va rester longtemps sur la croix. Parce que je veux que vous compreniez la révélation de la croix. Je veux que vous saisissiez ce que réellement Christ a fait pour vous et que vous arrêtiez de vous regarder, à un crucifix ou à des films où on voit Jésus en train de saigner à la croix et on ne comprend rien du tout. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a des profondeurs extraordinaires qui sont passionnantes à étudier. Mais on y va étape après étape. Donc l'homme était ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. L'homme n'avait pas de justice devant Dieu. Et Dieu va récupérer tout cela au travers de Christ. Maintenant, fermons cette parenthèse. On la rouvrira un peu plus tard. Continuons dans les événements qui se sont succédés à propos de la croix. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de Judas. Ce personnage énigmatique, un peu particulier. Matthieu 26, 14. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Qui était Judas? Bien, Judas, ça va être un des douze. Regardons Matthieu 10. On va étudier l'histoire et la destinée de cet homme, la destinée tragique de cet homme. On va montrer un peu la chance, la grâce qu'il a eue. Et comment il a tout tout gâché. Comment il était appelé. Et comment il a terminé. Et quel héritage il a laissé. Franchement,
Judas,
c'est vraiment misérable. C'était un personnage misérable. Mais regardons ensemble. Comment Jésus va l'appeler avec les autres. De quoi il a pu bénéficier. Et pourquoi finalement il s'est retrouvé dans une telle situation et comment il aurait pu encore en sortir et comment il a terminé cette Judas est un drame. C'est un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité. Si on pouvait classer les plus grands drames des personnages, le premier c'est Adam. Mais il a essayé de se rattraper quand même. Ensuite, on pourrait peut-être voir le roi Saül. Et je ne sais pas si on pourrait pas mettre devant Judas. Judas est un drame. Adam et Ève ont trahi Dieu. Et ont mis toute la race humaine sous la malédiction. Judas, lui, il a fait quelque chose de terrible. Regardons ensemble Matthieu 10. Verset 1. Jésus appela les 12, ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le payager, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. On peut lire le verset 4 seulement.
Mu kirundi na Simoni umunyakorona na Yuda Isikarioti umwe yamugura.
Voyez, les évangiles ont été écrits après tous les événements qui se sont passés. Et on présente Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. C'est bien d'avoir ça dans la Bible, lu par des centaines de millions de gens, voire des milliards de personnes. La Bible lui rend un témoignage épouvantable. Mais voilà ce que Jésus va faire avec les 12. Verset 5, les 12 inclus, 12. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et en fait, il envoie tous les disciples. Jésus envoie tous les disciples. Jésus envoie tous les disciples. Plein de fois dans les évangiles, il est dit Jésus et ses disciples.
Là.
Et tout le temps, ses disciples incluaient Judas. Judas a été appelé comme les autres, traité comme les autres. Et je dirais même qu'il va avoir un petit traitement de faveur. Il va avoir un petit traitement de faveur. Judas suivait le Seigneur comme les autres. Quand Jésus guérissait un paralytique, Judas le voyait. Quand Jésus a envoyé les 12 pour aller prêcher, guérir, chasser les démons, etc., Judas était dans l'eau et il a fait les œuvres. Judas a vu tous les enseignements du Seigneur, il était au début. Judas a bénéficié de l'onction de Christ. Il a vu les malades guéris. Il a vu les miracles de provision. Il a tout vu. Parce que les disciples de Jésus étaient avec lui. Il n'est pas dit tous les disciples étaient là sauf Judas. Judas a tout vu du ministère de Christ. Et encore en plus, le Seigneur va lui faire une faveur. Il va le mettre dans le comité exécutif. Regardons Jean 12. Regardez ce que la Bible nous dit. Il avait une bonne position. Jean 12. Alors, c'est une histoire de Jésus à Béthanie. Je vais la lire rapidement et on va surtout lire le verset 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas, Judas Iscariote, celui qui devrait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait.
Ariko byo nevugishije no kuba baraboro nuko yari umwivyi agenda no mufuko agasotora mu biswemwo.
Alors qu'est-ce que qui était Judas finalement?
Judas arinde musa.
Le trésorier du ministère de Christ.
Niwe yarashinzwe ibigega by'ibango rya.
Non, je l'ai bien dit, il était dans le comité exécutif.
Yari muri comité y'umuntu ahambaye.
Il était parmi entre guillemets ceux qui déboursaient, enfin c'était celui qui déboursait les sous.
Niwe yakora ku mufuko agasohora amahera.
Qui obéissait au ministre à Christ.
Akumvira ico Christ avuze.
Donc Jésus lui avait donné des responsabilités. Aussi dans le naturel. Pierre n'avait pas la bourse, Jean n'avait pas la bourse, Jacques n'avait pas la bourse. Mais Judas avait la bourse. Est-ce que Jésus lui faisait une confiance aveugle? Non, je ne crois pas. Regardons Jean 13. On va voir que c'était une habitude. Vous savez, on va voir comment Dieu donne des chances à l'homme. Mais l'homme a une responsabilité. Judas était trempé dans la parole de Dieu. Judas était trempé dans l'onction de Dieu. Mais Judas avait un problème. Un problème de caractère. Épouvantable. Qui l'a amené à faire l'erreur la plus tragique qu'un être humain aurait pu faire. Ici, regardons dans Jean chapitre 13. On relira ce passage un peu plus loin. Il est dit au verset 29. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou donne quelque chose aux pauvres. » Donc cet homme, il avait tout en quelque sorte. Il avait la confiance du Seigneur. Mais vous savez, Jésus n'était pas dupe. Jésus savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de Judas. Mais il lui a donné sa chance. Vous savez, Dieu est un Dieu qui nous donne toujours des chances. Et il nous observe. Méfie-toi comment tu pries. Si tu demandes de grandes choses au Seigneur, méfie-toi parce qu'il t'en donnera une partie. Au début, il t'en donnera une partie. Et il t'éprouvera. Rappelez-vous qu'il y a trois piliers sur lesquels nous devons construire. La parole de Dieu, l'onction de Dieu, et le caractère de Christ. Judas avait un caractère qui était pourri. Je vais vous dire une chose. Quelque chose que l'on voit et que je pourrais vous montrer témoignage après témoignage. Il y a des gens parfois dans des ministères. Vous savez, dans les ministères, il y a beaucoup de pression. Parce que quand Dieu utilise des hommes, souvent, quand quelqu'un a un ministère, cette personne est en one par le Saint-Esprit, Dieu l'utilise. Et autour de cette personne, il y a un certain entourage. C'est ce que Jésus avait. Jésus était le ministère, au loin du Saint-Esprit. Nous le savons, nous l'avons déjà étudié. Et il a formé 12 disciples. Et ces 12 disciples, étant en formation, ils ont subi des pressions. Parce que souvent, les gens qui sont dans l'entourage d'un ministère, ils subissent certaines pressions. Et c'est là où leur caractère doit être travaillé. Parce que souvent, quand des gens sont dans l'entourage d'un ministère, ce que Dieu veut faire, c'est souvent former une personne au travers de ce ministère. Ça, c'est tout à fait biblique ce que je vous explique ici. Malheureusement, il y a des gens, quand il commence à y avoir des pressions spirituelles, parce que le ministère implique des pressions spirituelles. On parlait ça ce matin avec un des pasteurs des plus grosses églises ici. on en discutait ensemble. Et en fait, je lui parlais de ce problème-là. Et il est vrai que les gens pensent que le ministère, c'est simplement tenir un micro, prendre la Bible et prêcher. Bon, ça, c'est une partie du ministère. C'est ce qu'on appelle le ministère public. Mais derrière tout ça, il y a de la préparation, il y a des pressions, il y a tout un tas de choses qu'on doit faire, que des gens ne s'imaginent même pas, qui font partie du ministère en général. Et Judas, comme les autres, Pierre aussi était extrêmement secoué. Si on étudiait les deux caractères entre Pierre et Judas, Pierre avait un caractère impulsif, il a fait de graves erreurs. Des fois, il a péché. Mais c'était un homme qui savait se reprendre. Pierre a péché plusieurs fois. Il a fait soit des déclarations qui étaient vraiment mauvaises. Il était souvent orgueilleux. Mais le Seigneur l'a repris plusieurs fois. Et durement. Rappelez-vous, Pierre, c'est celui qui a renié Jésus. On l'étudiera, ça aussi. Mais au moins, il savait se reprendre. Judas, il gardait tout à l'intérieur. Il faisait semblant d'être super spirituel. Et à l'intérieur de lui, il y avait de la pourriture. Et plus l'onction est forte, plus la pourriture sort. C'est-à-dire qu'elle se manifeste. C'est incroyable, quand on étudie l'histoire des ministères, de voir le nombre de gens qui parfois entourent des ministères. Certains ministères qui sont très loin, puissamment loin. Et voir les coups qu'ils leur font. Les coups de certaines personnes. Je relisais récemment l'histoire de Catherine Kuhlmann. Cette femme qui a été puissamment utilisée dans les années 1946 jusqu'à 75 à peu près. Qui avait un puissant ministère de guérison. Et cette femme, elle exerçait son ministère, vraiment Dieu l'a utilisé de façon extraordinaire, de façon absolument fabuleuse, avec des puissantes guérisons. Et cette femme, dans son entourage, quand elle passait d'une étape à une autre, elle avait des gens tout le temps qui lui faisaient des sales coups, de son entourage, de son staff, des gens qui lui faisaient des procès parce qu'ils voulaient des salaires beaucoup plus hauts, des gens qui profitaient parce que pendant un temps ils avaient mis à disposition certains biens immobiliers par exemple, des gens qui sous les pressions spirituelles se révèlent. Les pressions spirituelles révèlent nos cœurs. Les pressions spirituelles révèlent qui nous sommes. Si nous aimons vraiment le Seigneur, ou s'il y a des agendas cachés, s'il y a des motivations qui sont impures, obligatoirement, quand Dieu vient et agit puissamment quelque part, il y a obligatoirement quelque chose qui sort. Et souvent, c'est pas beau. Judas, lui, il y avait des pressions. Je vous rappelle qu'au moment où Jésus a dit « Maintenant, c'est mon heure », je vous rappelle que c'était une heure divine. Je vous l'ai montré par plusieurs preuves dans l'Écriture. Alors, les pressions commençaient à voir le jour. Est-ce que Judas était destiné à trahir Jésus? Absolument pas. Absolument pas. Judas n'était pas destiné à trahir Jésus. Mais le diable a utilisé quelqu'un qui était dans l'entourage de Jésus, dans l'entourage de Christ. Mais Judas n'était pas destiné à cela. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que quelqu'un vienne trahir le Messie. C'était prophétisé à l'avance qu'il y aurait quelqu'un qui le ferait, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc Judas avait toutes les chances de pouvoir réussir. Judas avait toutes les chances de pouvoir lui aussi un jour naître de nouveau après la résurrection de Christ, être revêtu de la puissance de Dieu parce qu'il était appelé. Il avait toutes ses chances. Mais là encore, étape après étape, Il n'a pas gardé son cœur. Il n'a pas travaillé son cœur. Il ne s'est pas sanctifié. Mais il était. Simplement, il a laissé des trucs pourrir. Et alors que l'occasion s'est présentée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été capable de trahir le maître. Il a été capable de trahir le maître. Et la façon dont il l'a fait, c'est dramatique. Vraiment, quand il a trahi Jésus, c'est absolument affreux. Dans Jean chapitre 13, on voit exactement ce qui va se passer. Donc Judas, d'abord va voir les Juifs, les principaux Juifs, c'est-à-dire les responsables, donc, et il leur dit, maintenant, moi je peux vous livrer si vous voulez. Il décide de trahir Jésus. Mais il aurait pu encore revenir en arrière. Il aurait pu encore se repentir. Il avait le droit de le faire. Et il aurait pu le faire. Et il aurait dû le faire. Mais il ne va pas le faire. Regardons un peu ce qui se passe. Dans Jean chapitre 13, il y a tout ce passage où Jésus va passer cette dernière soirée avec ses disciples. Et ils vont bien sûr manger la Pâque. Et là, franchement, quand on étudie ce chapitre, là, on voit vraiment qu'il y a des choses intenses. Il y a plein d'événements qui vont se passer, les uns après les autres. Et c'est vraiment intéressant parce que Jean 13 à 17, c'est quelques heures que Jésus va passer avec ses disciples. Et on a tous les événements qui nous sont relatés. On a énormément de paroles de Jésus. Je
ne
sais pas si combien de pourcents il y a de tous les dialogues de Jésus, mais il y en a un paquet.
Verset 1,
avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Satan va mettre des choses dans le cœur de Judas. Parce que Judas va ouvrir son cœur à Satan. Rappelez-vous, ils n'étaient pas nés de nouveau encore. Mais Judas, comme il y avait une faille dans son cœur, que les puissances des ténèbres voulaient absolument se débarrasser de Jésus, la porte était ouverte pour qu'il soit une marionnette du diable. Vous savez, le diable ne fait jamais de cadeau aux instruments qu'il utilise. Parce que non seulement ce sont des instruments diaboliques,
et
en plus ils sont victimes du diable. À la fois instruments et à la fois victimes. C'est ce que le diable fait de ces instruments. Il n'a aucune pitié. Quand vous regardez par exemple des films, vous savez, où il y a des gens qui vraiment sont dans des histoires de drogue, prostitution, toutes sortes de choses comme ça, ces gens sont du même je dirais sont du même camp, du camp diabolique. Mais ils se haïssent entre eux, ils se haïssent, ils se font tous les coups possibles et imaginables, ils se volent, ils se tuent, toutes sortes de choses. Le diable fait toutes sortes de destructions. Là, Jésus, il va donc laver les pieds de ses disciples. Ensuite, il va laver le visage de ses disciples. Et il y a tout un dialogue qui se fait. On ne va pas tout détailler ici. Mais là encore, Jésus va laver les pieds de son traître. Et Jésus n'hésite pas à le faire. Et puis après, verset 18, il va nous dire: ce n'est pas de vous tous que je le dis, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez en moi, je suis. En vérité, je vous le dis, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 21. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit et fit cette déclaration: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus va recevoir cette parole de la part du Saint-Esprit. Révélation sur les intentions et les buts de ce que, en fait, quelqu'un allait faire contre lui. Ici, c'est une révélation qu'il reçoit. Ce que la Bible appelle une parole de sagesse. Où Jésus reçoit cette révélation. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va le livrer. Alors d'un seul coup, les disciples... Nous. C'est peut-être toi. C'est peut-être l'autre là. Et ils ont commencé à se regarder les uns les autres. Vraiment, à commencer à se suspecter les uns les autres. Vous savez, quand quelqu'un dit il y a un traître parmi nous, les gens en général se disent il est peut-être assis à côté de moi. Il y a obligatoirement la suspicion qui est levée. Et d'un seul coup, il y a une ambiance qui est lourde qui arrive. Là, ils étaient 13. 12 plus Jésus. Et en fait, il y a cette suspicion qui est là. Mais ils savent apparemment que le Seigneur a la réponse. Il sait qui c'est. Et alors, en fait, ils vont découvrir rapidement que bon, Jésus va tremper un morceau et va le donner et va dire à Jean, à celui à qui je donnerai le morceau, c'est lui.
Verset 27.
Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Alors, c'est pas tout à fait exact, c'est plus Satan vint vers lui précisément. Jésus lui dit : ce que tu fais, fais-le vite. Rappelez-vous, Jésus avait le pouvoir de donner sa vie. La machine de notre rachat, de notre rédemption était mise en route. Tout se mettait en place. Dans les événements, à partir de Matthieu 26 et tous les passages parallèles, tout va s'empiler. Événement après événement. Tout le plan de destruction de la vie de Jésus va se mettre en place comme quelque chose, comme des morceaux qui s'emboîtent parfaitement les uns après les autres, comme si c'était planifié. Tout va marcher. C'est normal. La protection de Dieu était enlevée volontairement de la vie de Jésus. Jésus donne sa vie. Alors ce pauvre Judas, il va bien sûr partir de la table, il va sortir et Jésus va continuer dans l'intimité avec ses disciples. Revenons à Matthieu 26. Il va y avoir l'arrestation de Jésus. On va regarder un petit peu quelle a été cette arrestation. Regardons verset 47. Matthieu 26, 47. Comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait, c'est-à-dire Judas, leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors que ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, en fait c'était Pierre, nous le savons dans un autre passage, l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite dans leur courage. » Donc ici, dans ce passage, on a plusieurs choses importantes. D'abord, on voit que Judas va mettre un comble à son péché. Cet homme va recevoir 30 pièces d'argent pour livrer Jésus. Et il va le faire. Il va le faire. Il a trahi Jésus, maintenant il livre Jésus.
Et
il livre Jésus d'une façon horrible. C'était simple. Il disait aux Juifs, oh, tous les soirs je sais où le trouver. Il va régulièrement dans ce jardin qu'on appelle
Gethsemane.
Il n'y a pas de problème. Là, on peut le trouver. C'est leur lieu de rencontre. C'est là où Jésus nous enseigne. Donc vous inquiétez pas, il sera là aussi ce soir. Vous savez, c'est souvent les traîtres sont souvent les gens de l'intérieur. C'est-à-dire les plus proches. Parce qu'ils savent les habitudes en général. Ils savent les habitudes des autres. Quand quelqu'un est proche de vous, par exemple si vous êtes patron, en général ceux qui volent les patrons plus facilement, c'est les employés qui connaissent toutes les habitudes. Quelqu'un qui
ne
connaît pas l'entreprise ou la maison, il risque beaucoup de s'introduire dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et là, Jésus connaissait très bien la maison, entre guillemets. Judas connaissait très bien la maison. Donc, le Fils de l'homme est livré par un baiser. Un homme qui avait toutes ses chances. Un homme qui a eu toutes ses chances. Et vous voyez, on pourrait dire, si vraiment Jésus avait dit à Judas plusieurs fois, tu sais, moi je te connais,
hein.
Tu vas me trahir, toi. Tu sais, je sais que tu piques dans la caisse,
hein.
Tu sais, je sais qui tu es, hein. Jésus n'a rien dit. Il n'a strictement rien dit. Judas va être confondu. Il va être complètement confondu. Cet homme avait un caractère d'une pourriture. Cet homme va être complètement confondu. Parce que non seulement il va renier Jésus pour un prix dérisoire, mais le pire, on voit combien cet homme était déprimé, déséquilibré dans sa tête, parce qu'il avait laissé tout rentrer dans son cœur, tout ce qui était
pourri.
Vous savez, la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Il y a des fois dans nos vies des pressions spirituelles qui sont extrêmement fortes.
Et
là, il faut faire très attention. Si quand il y a des pressions spirituelles sur toi qui sont très fortes, parce que tu commences à porter des fruits,
fais
attention. Regardons au verset 3. Une fois que Jésus est livré, au chapitre 27, verset 3. Jésus est livré, il est arrêté.
Okay.
Il est dans les mains des Juifs. Et Judas sait très bien que de toute façon, une fois que Jésus est dans les mains des Juifs, ils s'arrangeront pour mentir, ils s'arrangeront pour le faire exécuter. Il faut simplement savoir une chose, les Juifs, les principaux des Juifs, ce qu'on appelle le conseil du Sanhédrin, c'est-à-dire des responsables juifs, ne pouvaient pas décider sur la mort d'un autre Juif. Pourquoi ? Parce que les Juifs n'étaient pas maîtres de leur pays. Ils étaient obligés de passer par les Romains, les autorités romaines. Ça, on va expliquer ça un peu plus tard. Mais regardons un peu comment Judas a terminé. Judas qui avait toutes ses chances. Toutes ses chances. Même après l'arrestation de Jésus, Judas aurait pu courir et dire, Seigneur, pardon, Seigneur. Et vous savez ce que Jésus aurait fait? Jésus lui aurait pardonné. Vous
ne
croyez pas? Absolument. Si Judas était revenu à ce moment-là, avec un cœur repentant, Jésus lui aurait pardonné. Et vous savez, les gens qui sont comme ça, les gens qui sont traîtres en général, ils terminent toujours très mal. Ces gens. Verset 3 du chapitre 27. Regardez le drame de la vie de cet homme. Un homme qui avait toutes ses chances. Regardez comment il va terminer. Un vrai drame. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Vous savez, le remords, c'est simplement avoir du regret. Et le regret n'amène jamais une repentance. Le regret, c'est être triste pour quelque chose qu'on a fait. C'est être triste pour une chose qu'on a faite. Mais ça n'amène jamais les gens à la repentance. Les gens viennent à la repentance alors que réellement ils sont convaincus de leur péché
et
qu'ils se détournent de leur péché. Cet homme avait du remords parce qu'il savait une chose. Ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Mais le remords n'amène jamais quelqu'un au pardon de Dieu. Dieu ne peut pas pardonner des gens qui ont du remords. Il ne pardonne que les cœurs repentants. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de réparer son mal. L'argent qu'il a dans les mains, c'est de l'argent sale. Mais il aurait pu s'en apercevoir avant. Le jour où il a trahi Jésus, il a accepté les sous. Il était content. Parce que cet homme était un homme rempli de convoitise. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rapporter les 30 pièces d'argent. Quel drame. Être si près de tellement belles choses, près du Seigneur, voir le Seigneur face à face, entendre le Seigneur face à face, voir les œuvres du Seigneur, Dieu en chair devant lui pendant 3 ans et demi, avoir une confiance de la part du Seigneur, avoir toutes ses chances et les gâcher pour un petit peu d'argent. Quelle misère. Vraiment, comme on dit en français, ce gars-là, c'était un pauvre type. Un moins que rien, un vaut rien. Combien sont ceux qui auraient aimé avoir une telle chance de pouvoir être au pied du Seigneur pendant 3 ans et demi et voir le ministère le plus puissant qui n'a jamais existé sur la terre. Et alors il revient, il redonne cet argent en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Et les gentils juifs qui étaient tout contents d'avoir eu Jésus comme proie va lui dire: que nous en importe, cela te regarde. Les pécheurs sont pas très sympas en général. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est dramatique. Dans la Bible, nous avons l'histoire d'un autre homme qui s'est suicidé aussi. C'est le roi Saül. Et le roi Saül, c'est un peu l'histoire de Judas. Bien des années plus tôt. Plus de 1000 ans avant. Saül va être jaloux, va en vouloir à David. Et cet homme ne va jamais se repentir. Il a fait des erreurs graves. Il était tellement jaloux qu'il est devenu moitié fou. Mais il se suicidera. Alors qu'il avait toutes les chances de réussir. Alors qu'il était le premier roi d'Israël. La vie de Judas est un drame. C'est un immense drame et un immense gâchis. Le gâchis d'une vie choisie par Dieu pour servir le Seigneur. Le gâchis d'une vie où quelqu'un voit Dieu agir d'une façon extraordinaire. Et parce que le caractère n'y est pas. Parce que la pourriture est là. Et quand il y a des pressions, cette pourriture ressort. C'est la vie de Judas qui se détruira lui-même. Voilà pour le caractère de Judas. Que le Seigneur vous bénisse et on continuera dans les prochaines séances.
Enseignement.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.